Christelle Heuck présente l'Art Nouveau dans Carrefour des Arts.
Comme le formule Christian Poncelet, le Sénat a voulu célébrer une extraordinaire aventure, une féconde période de puissante invention picturale de l'immédiat après-guerre, et rendre hommage à des peintres immenses comme Atlan, Bazaine, Bissière, Fautrier, Hartung, Soulages, Manessier, Mathieu, Poliakov, Volz et beaucoup d'autres. Et c'est la première fois que le grand public aura pu découvrir tous ces peintres dans une présentation d'ensemble réunissant ce que l'on nomme parfois la seconde école de Paris et qui bénéficie déjà d'un immense prestige. Carrefour des Arts reçoit aujourd'hui le commissaire de cette importante exposition, Patrick Gilles Persin. Monsieur Persin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique d'art, écrivain, oui. Ayant signé une bonne trentaine d'ouvrages. Vous êtes expert pour les tableaux et les sculptures d'art moderne et contemporain.
Oui.
Et ce n'est pas la première exposition dont vous êtes le commissaire, mais peut-être votre 301e. Tout cela fait de vous un personnage incontournable de l'art moderne. Et avant de pénétrer radiophoniquement dans l'enceinte du musée et de découvrir votre sélection de peintres, une première question, pourquoi cette datation très précise de Paris 1945-1956 ?
Je crois qu'il fallait, dans la vie, il faut faire des choix. J'ai passé mon temps avec toutes les expositions dont vous avez eu la gentillesse de parler. J'ai dû faire des choix, et là particulièrement. Et en effet, c'est la première fois que l'on organise une exposition dans un musée, français ou étranger, exclusivement sur l'abstraction lyrique. Et je me suis dit qu'il fallait évidemment commencer avec la libération de Paris, puisque ça se passe à Paris, donc 1945. Mais arrêter l'exposition, est-ce que ça doit être en 60? Est-ce que ça doit être en 55? Eh bien non, c'est en 56. Parce qu'à la fin de 1956, en octobre et novembre, paraissent simultanément deux ouvrages dont chacun des auteurs a été le signataire surpris, puisque l'autre livre paraissait absolument au même moment. L'un était Marcel Brion, futur académicien français qui a fait un livre sur l'abstraction, et Michel Ragon, tout jeune critique d'art et futur grand romancier, qui publié aussi chez Albin Michel et non pas chez Lafont, un bouquin de 260 pages sur le même sujet.
Et puis l'art abstrait.
L'art abstrait. Et principalement l'art abstrait lyrique, mais aussi évidemment l'autre abstrait qui est l'abstrait géométrique.
On en parlera tout à l'heure.
Bien. Et juste au début de 57, chez Azan paraît, signé par Michel Sefort, le premier dictionnaire de la peinture abstraite. Alors je me suis dit que c'était une excellente occasion pour trouver là la fin de cette exposition. Voilà. Donc au 31 décembre 56, entre deux livres et un dictionnaire, je trouvais que l'affaire était suffisamment en place et que, mon Dieu, si l'exposition s'appelait l'envolée lyrique, c'était pas la peine de faire l'envolée et l'apothéose.
Oui, donc c'était limité entre 45 et 56, on a très bien compris. Et on sait que la première moitié du XXe siècle en général a vu surgir une succession impressionnante de mouvements avant-gardistes.
Tout à fait. Oui.
Entre les fauves, les futuristes, les cubistes, Dada.
Les surréalistes.
Et les surréalistes, bien sûr. Et en quoi ce mouvement de l'abstraction lyrique est si particulier? Ou alors, m'est venue une autre question, est-ce que ce mouvement ne se situerait-il pas déjà après les avant-gardes?
Non, c'est une autre avant-garde. C'est autre chose. Un peu d'histoire. 1910, voilà. Kandinsky est à Munich, il est arrivé en 1908, quittant sa Russie natale. Il est donc là depuis 2 ans. Il commence à faire des travaux esthétique, des recherches, dont il parle d'ailleurs volontiers dans ses écrits, qui prennent un autre tour. Et voilà que les choses deviennent abstraites. Et il compose en 1910 une œuvre de petit format qui est une aquarelle, qui s'intitule toujours aujourd'hui « Première œuvre abstraite ».
Vous dites d'ailleurs
compose. Et c'est la première d'une série de 25 ou 30, je ne sais plus, aquarelles que Kandinsky crée dans la suite. Donc nous sommes en 1910, hein, bien avant notre affaire. Et en 1912, il va composer un tableau qui s'appelle « Avec l'arc noir », qui est un très grand tableau, tout à fait abstrait aussi, tout à fait informel plutôt qu'abstrait. C'est peut-être mieux de dire informel. Et qui va, on le verra par la suite, marquer beaucoup les peintres qui nous occupent aujourd'hui. Ces œuvres sont conservées maintenant puisqu'elles ont été léguée par Nina Kandinsky, la veuve du peintre, au Centre Pompidou. Donc, on peut les voir au Centre Pompidou. Et je crois qu'il est extrêmement important de bien souligner que tout commence là.
Oui, tout commence avec tout Kandinsky. Commence là.
Et puis, en 1920, à Dresde, donc 10 ans après, à Dresde, 1920-1922, il y a un jeune garçon qui s'appelle Hans Hartung, qui a à peine 20 ans, et qui apprend avec son professeur à peindre ou à aquareller du papier, si j'ose dire, des deux mains, et de la main gauche et de la main droite, et il compose lui-même ses premières. Il n'est pas au Bauhaus, j'insiste lourdement, contrairement à ce que tout le monde dit toujours. Hans Hartung n'a jamais été l'élève du Bauhaus, il était à l'Académie des Beaux-Arts, et donc à l'école des Beaux-Arts, en quelque sorte.
Par contre, Kandinsky a un peu frôlé
Professeur.
Oui,
il était professeur.
Oui, il était, c'est ça, oui.
Et exactement au moment où Hartung, lui, faisait ses premières aquarelle abstraite également. Il en a fait une série, il en a fait pendant un petit moment, il en a fait, je crois, 30 ou 35, dont 22 ont été montrés d'ailleurs récemment au musée d'Angers, et dans une grande rétrospective qui était consacrée à l'œuvre d'Hartung. Et donc, voilà, les choses commencent à se mettre en place. Les premières œuvres abstraites de Kandinsky, puis Hartung, et puis dans les années 30, c'est le tour de Schneider qui commence un peu à s'interroger sur la nécessité réelle, dans les années 35, pardon, de s'intéresser vraiment sur la nécessité de reproduire en permanence des personnages, des paysages, des natures mortes, et il commence un tout petit peu à les déstructurer, à essayer de trouver d'autres écritures, d'autres gestes de peintre, et puis après c'est Polyakov, nous sommes toujours avant-guerre, après c'est Polyakov et d'autres peintres encore, ce serait peut-être un peu long de les énumérer. La guerre arrive, éclatement total de tout, certains partent au front, certains seront faits prisonniers, d'autres pas, certains foutent le camp dans la clandestinité, d'autres restent à Paris, nous aurons l'occasion d'en reparler, et d'autres encore, les derniers, s'en vont en exil à l'étranger, principalement aux États-Unis, mais ils peuvent aller aussi en Suisse ou ailleurs, nous en reparlerons.
Ce rappel de l'histoire nous mène donc au moment après la guerre.
C'est pourquoi l'exposition commence en 1945.
Voilà. Alors, pour vous, l'abstraction lyrique, que vous avez appelée l'envolée lyrique, est un fabuleux carrefour international autour d'une esthétique totalement nouvelle, que des initiés appellent bientôt l'abstraction chaude ou lyrique par opposition à l'abstraction froide ou géométrique,
oui,
que nous avons évoquée tout à l'heure, dont la filiation remonte à Malevich ou au Mondrian.
Tout à fait, les constructivistes russes, Mondrian, voilà. et puis d'autres choses. Enfin, d'une certaine façon, peut-être aussi un peu les héritiers d'un certain cubisme.
Absolument, bien sûr. Donc, un élan d'avant-garde après la libération, dont Paris est le centre. Alors là, j'avais deux questions concernant l'âme même de cette nouvelle esthétique, sa nécessité intérieure dont parle Michel Ragon, et d'ailleurs d'après Kandinsky, je crois. Michel Ragon, qui est un des premiers grands critiques ayant soutenu ces artistes. D'abord, de quelle manière ce mouvement a-t-il commencé? Vous l'avez un tout petit peu initié déjà.
Oui.
Et aussi, comment situer ce mouvement par rapport à la fameuse première œuvre abstraite de Kandinsky de 1910, ce que vous avez évoqué tout à l'heure.
Alors, repartons un peu en arrière. Bien sûr, quand un mouvement s'organise dans l'immédiate après-guerre, quand un mouvement s'organise comme ça, il est bien évident qu'il y a un certain nombre d'artistes qui sont les aînés, d'autres qui sont plus jeunes et d'autres encore qui vont venir en agrégat un peu in fine. Alors, dans les aînés, il y a Bissière, le peintre Roger Bissière, qui est un peintre, ils étaient tous, précisons qu'ils étaient tous évidemment des peintres figuratifs. Avant-guerre.
Précédemment.
Tous, bien sûr. Ils ont tous reçu une éducation stricte, rigide, l'académisme. Les enfants, les petits-enfants d'Ingres et des pompiers leur ont enseigné la peinture, le dessin d'abord et la peinture, ce qui est très bien en soi, mais enfin, ce n'est pas une finalité. Et ils ont donc eu Bissière à l'Académie Rançon comme professeur. Et puis en 37, à l'occasion de l'exposition universelle, au Jeu de Paume, place de la Concorde, est consacrée une salle à Kandinsky. Nous le retrouvons là. Il est arrivé entre-temps à Paris, enfin à Neuilly. Il est installé, on le connaît un peu et on lui consacre une salle où il expose des tableaux qui sont pratiques, de format très moyen et qui sont ceux de son travail depuis 20 ans, ce qui est tout à fait normal, 20 ans, même 25 ans.
Déjà
et au milieu de ça, il y a ce fameux tableau que j'évoquais tout à l'heure, de 1912, avec l'Arc Noir, qui est un tableau qui fait 2 mètres par 2 mètres. Alors évidemment, déjà, quand on entre dans cette grande salle où tous les tableaux sont à peu près du même format, et au milieu de la salle du mur, il y a un énorme tableau de 2 mètres par 2 mètres, mais tous les jeunes peintres de l'époque se précipitent vers le grand tableau. Les visiteurs anonymes aussi, bien entendu. Et ils découvrent une forme de peinture qu'ils ignoraient, parce qu'ils ne connaissaient pas Kandinsky, même s'ils habitaient tous Paris, ils ne connaissaient pas Kandinsky. Et là, la révélation, le choc se fait pour les aînés de l'abstraction lyrique, qui comprennent qu'il y a une autre, un autre destin que la peinture figurative et que qui les plonge un peu dans les recherches de vers l'informel, sans qu'ils sachent eux-mêmes trop ce qu'ils allaient faire. La guerre arrive. Quelques artistes, je l'ai dit tout à l'heure, restent à Paris. Il s'agit de Bazaine, Manessier, Lemoyle, Lapicque, Berthold, Léon Gisquia et quelques autres. Et ils se disent, bon, c'est la guerre, les Allemands sont dans la rue, nous, nous sommes dans nos ateliers, on vend plus très bien, il faut réagir. Mais que faire? On va pas se mettre à se promener dans la rue en criant « Ah bah ceci, ah bah cela ». Eh bien, nous allons faire autrement, nous allons mettre un coup de pied dans la fourmilière au niveau esthétique. Et ils décident, ensemble, chacun conservant évidemment son identité propre et son indépendance esthétique et culturelle. Et ils décident d'essayer de trouver autre chose. Et ils démontent le principe des idées reçues et l'éducation reçue pour faire des tableaux qui se verticalisent, qui se schématisent. Et c'est le début de la disparition de l'image, du récit figuratif.
C'était donc leur résistance à eux.
D'une certaine façon.
Après ce grand parcours historique et libératoire, puisqu'on est arrivé à la libération, nous nous retrouvons après une courte pause musicale. Reprenons notre entretien avec Patrick Gilles Persin, le commissaire de l'exposition L'Envolée lyrique, Paris 1945-1956, au Musée du Luxembourg à Paris. Vous nous avez suffisamment éclairé sur le parcours historique et comment ce mouvement de l'abstraction lyrique a pu se constituer et s'affirmer. Et maintenant, parlons peut-être un peu des principaux protagonistes, outre les noms que vous avez déjà évoqués tout à l'heure, et puis peut-être aussi leur filiation. Puis-je vous inviter à nous faire visiter maintenant le musée donc du Luxembourg.
Oui, tout à fait.
Salle après salle, et on peut commencer par cette magnifique petite salle où sont réunis Wolfs, Reichel et Michaud. C'est une salle avec des signes, c'est tout à fait féerique. Faites-nous un peu rêver, s'il vous plaît.
Voilà. Alors, j'ai souhaité, parce qu'il fallait prendre un parti dans cette exposition, qui est quand même assez touffue, il faut bien le reconnaître. Il y a 59 artistes, dont 7 femmes, et la plupart de ces artistes sont des artistes qui sont venus de l'étranger, soit avant la guerre, soit après. Et il y a des Français, il y a tout ça, c'est assez confus. Il y a des artistes qui sont très célèbres, d'autres que j'ai voulu ressortir pour montrer ce qui se passait vraiment entre 1945 et 1956 à Paris dans cette abstraction lyrique. Et j'ai préféré adopter le principe de la chronologie. C'est ce qu'il y avait de plus simple. Parce que certains artistes n'ont qu'un tableau, d'autres en ont quatre. Donc, il fallait qu'il y ait une chronologie parfaite pour que le spectateur puisse suivre l'évolution de chacun de ces artistes, puisqu'on retrouve certains tout au long de l'exposition, avec quatre tableaux. Le musée n'est pas si tant grand qu'on ne puisse s'y retrouver. Mais au départ, il fallait commencer par les dessins. Parce que pour moi, le dessin, l'œuvre sur papier, c'est fondamental, c'est la base de tout. Or, que faire ? Est-ce qu'il fallait prendre des dessins ou des œuvres sur papier, des gouaches, des aquarelles, etc., ou des collages des plus connus, de certains? Non. J'ai choisi de montrer des œuvres de Volz, parce que Volz était à l'époque, et il est toujours heureusement, un des plus grands, et peut-être même le père finalement, le père réel de ce mouvement. Volz qui travaillait, qui exposait peu chez Drouin, qui ne vendait jamais rien, qui vivait dans des conditions atroces dans une chambre de bonne, puis ensuite dans une chambre plus que exiguë à l'hôtel de la Louisiane, et où il est mort d'ailleurs. Et ces gens vivaient, ils n'avaient rien, il n'y avait pas de musée, il n'y avait rien à bouffer, il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait rien, c'était la fin de la guerre, et donc ils étaient dans des conditions atroces. Mais Volz, lui, travaillait, alors il a fait des toutes petites œuvres sur papier, que je montre, là, il y en a quatre ou cinq, qui sont, je crois, extrêmement intéressante. Michaud, il fallait montrer aussi le travail de Michaud, parce qu'on connaît le poète, on connaît moins le dessinateur et le peintre, qui est aussi un artiste extrêmement important. C'est lui qui a montré la voix à Zhao Wuqi, par exemple, et à quelques autres.
Oui.
Et puis Hans Reichel. Alors Hans Reichel était un peintre allemand qui était arrivé dans les années 30 à Paris et qui depuis, à l'époque, depuis une quinzaine d'années, donc en 45-46, exposait assez régulièrement, sans grand succès d'ailleurs, mais ça peu importe, le temps a fait son œuvre et maintenant c'est un artiste célèbre. Hans Reichel exposait chez Jeanne Bûcher. Et
une
des grandes galeries phares
qui a commencé
de l'avant-guerre.
À exposer les
Jeanne
abstraits.
Bûcher exposait aussi Viera La Silva et d'autres artistes, bien sûr, qui deviendront après-guerre les tenants de cette envolée lyrique et de cette abstraction lyrique.
Oui.
Voilà pourquoi j'ai voulu commencer par... Alors j'ai choisi trois artistes, j'aurais peut-être pu en prendre plus, moins, je ne sais pas. Mais je crois que cette première salle, un petit peu dans l'obscurité, et c'est obligatoire pour la conservation des œuvres, qui sont le plus souvent prêtées par des musées ou de grandes collections internationales, et il fallait donc mettre peu de lumière. Les gens sont surpris, ils arrivent dans une salle un peu intime, et puis très vite, on est en 45, avec les premiers tableaux, les premiers tableaux qui sont généralement de petits formats, parce que les artistes n'avaient pas d'argent et ne pouvaient pas peindre de grands tableaux. Souvent, ces tableaux sont recto verso, ils sont peints des deux côtés, sur de la toile de jute, sur de la toile à matelas, sur du drap de lit, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire.
Mais avec au fur et à mesure des salles, les tableaux s'agrandissent
aussi. Exactement, et alors à partir de 1950,
avec la notoriété.
Voilà, c'est ça. Le succès arrivant, l'argent commençant, enfin le succès relatif arrivant, parce qu'ils ont eu beaucoup de succès très vite, mais ils n'ont pas vendu très vite. Ils exposaient déjà, l'Allemagne a très vite compris l'importance de ce courant, et puis la Scandinavie, la Belgique, le Luxembourg, ça ils ont compris tout de suite. Alors les grands musées ont ouvert leurs portes à ces jeunes artistes qui ont eu très vite des rétrospectives, c'était très étonnant ça, dès 51-52, mais c'est pas pour ça qu'ils vendaient beaucoup.
Et pourtant, vous avez évoqué Jeanne Bûcher tout à l'heure, mais il y avait beaucoup de galeries, qui devaient quand même essayer de vendre leurs artistes.
48, non, parce qu'ils ne vendaient rien du tout. Drouin ne vendait rien, personne ne vendait, et Lydia Conti vendait très peu. Mais c'était des carrefours de rencontres, c'était des carrefours de rencontres avec certains collectionneurs qui de temps en temps achetaient quelque chose. Un des peintres de l'exposition, Oscar Gauthier, m'a raconté que entre 49 et 52, il a eu trois expositions et la première, il n'a rien vendu. La deuxième, il n'a rien vendu. La troisième exposition, le marchand lui téléphone à la fin de l'exposition en disant « ça a été un triomphe ». Je dis « ah bon, alors tu as tout vendu ?»« Oui, j'ai vendu un tableau. » C'est tout.
Mais on vendait rien. Il faut dire qu'on était après la guerre.
Voilà, c'est ça. On ne vendait rien du tout. Et les gens n'avaient pas d'argent. Mais il y avait une énorme bonne volonté, une énorme solidarité, finalement. Ce qui fait qu'on pouvait arriver à vivoter sympathiquement.
Il y avait un climat à Saint-Germain-des-Prés, les galeries, les artistes. C'était une très jolie époque, je dois dire.
Il y avait aussi droite. Mais c'était une époque de rêve et de cauchemar en même temps. Enfin, de post-cauchemar.
Continuons la visite de l'exposition. Peut-être vous pouvez nous raconter cette anecdote au sujet de Pierre Soulages, quand il expose pour première fois.
Alors vous voulez
parler
du grand tableau qui est à l'entrée de l'exposition. Oui. Une fois qu'on a regardé les dessins que j'évoquais précédemment, il y a deux tableaux. Un tableau de Stahl de 44, parce qu'évidemment ça commence en 45, mais enfin j'ai pas pu résister. Quand j'ai vu la somptuosité du tableau qui m'était proposé, je l'ai accepté, quoi qu'étant de 44. C'est donc le premier tableau de l'exposition. Et tout à côté, il y a un autre tableau très construit, déjà très sombre, avec une belle surécriture, très, très élégante et de grande qualité de Pierre Soulages. Un tableau de 1946, c'est un prêt de l'artiste. Et quand je suis allé le voir pour savoir un peu ce que nous allions exposer ensemble, il m'a dit, écoutez, j'aimerais bien que vous preniez ce tableau-là, parce que c'est le premier tableau que j'ai exposé en arrivant à Paris. Il était de 46, je précise. Et ils arrivaient donc de Rodez avec Colette, sa femme. Ils avaient une chambre de bonne, je crois. Ils vivaient dans une chambre de bonne à Levallois-Perret ou quelque chose comme ça. Et il allait, tout le monde, quand on arrivait à Paris, à l'époque, tout le monde allait à Montparnasse. On s'asseyait à une terrasse de café, c'était bien le diable. Si le voisin de gauche ou de droite n'était pas artiste, il vous donnait quelques tuyaux. Et ce que fait Soulages, il s'assied et à côté... Donc, sur cette terrasse de café, à table d'à côté, il y avait deux peintres espagnols. L'un était Fine et l'autre était Xavier Villato, les deux neveux de Picasso. Mais il n'en savait rien, Soulages, il ne connaissait personne. Et puis, il dit, je voudrais bien exposer, je suis peintre. Alors bon, bah, tu as qu'à venir avec nous, on va exposer au surindépendant. Tu prends 3 mètres de 6 mètres, tu apportes 2 ou 3 tableaux, tu fais ce que tu veux, et puis voilà, tu exposes avec nous. Il apporte 2 tableaux, et puis il attend, à côté de ses tableaux. Et puis il passe un monsieur, son grande histoire apparente, sans rien, qui dit « C'est vous, jeune homme, qui faites ça ?»« Oui, 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 c'est moi qui fais ça, monsieur, oui. Ça vous intéresse ?»« Oh oui, ça m'intéresse beaucoup. Vous irez très loin, jeune homme, si vous continuez à travailler comme ça. » Soulages, j'avais 26 ans. « Et vous irez très loin et vous ferez beaucoup d'ennemis, croyez-moi. » Alors, un peu interloqué, Soulages, je dis « Monsieur, est-ce que je peux vous demander qui vous... »« Oh, monsieur, mon nom ne vous dira rien, je suis Francis Picabia. » Alors évidemment Soulages, effectivement, ne savait absolument pas qui était Picabia. Puis Picabia s'en va et il court voir les deux Espagnols à côté qui se tordent de rire en disant « Tu n'as pas reconnu Picabia, mais c'est un des plus grands peintres aujourd'hui, c'est très important, pour toi c'est très important. » Bon, le contact était pris. Ils vont fêter ça au bistrot, ils reviennent, je n'invente rien, hein. Ils reviennent et ils... il revient et une dame est en train de regarder le tableau, une petite dame comme ça aussi, un peu insignifiante, mais sans histoire. Et c'est vous, jeune homme, qui faites même scénario. Oui, madame. Très bien, mon mari aime beaucoup ce que vous faites. Ah, merci, madame, mais je peux savoir qui vous êtes. Je suis Roberta Gonzalez. Alors évidemment, Roberta Gonzalez, ça ne lui disait rien du tout non plus. Alors merci beaucoup madame, et puis il va voir les deux copains qui connaissaient tout le monde et il lui dit ben, je suis content parce que là cette dame qui est madame Gonzalez, elle, ah ça c'est formidable, elle aime bien mon tableau aussi, elle le trouve formidable et son mari aussi. Mais qui est madame Gonzalez? Mais comment tu ne sais pas? Mais c'est la fille du grand sculpteur Julio Gonzalez et c'est la femme du monsieur qui s'en va là-bas avec 2 cannes. Et Fine dit à Soulages, oh tu sais il a un nom marrant, il s'appelle Tartung.
C'était
Hans Hartung. Et il lui dit, mais cours après, parce que c'est un monsieur très intéressant. Bon, puis ils se sont liés d'amitié immédiatement, et jusque dans la mort, c'est-à-dire au moment de la mort d'Hartung, ils ont été inséparables avec Schneider Gérard Schneider.
D'ailleurs, voilà. Il y a même une même famille, je trouve, dans leur peinture, entre
tout
Schneider,
à fait. Soulages
et Hartung.
C'est le geste, oui. Enfin, c'est
le grand geste, lyrique dans toute sa splendeur.
Oui, c'est ça, le lyrisme absolu, le post romantisme finalement.
Donc après on continue, il y a Mathieu qui rassemble ce
Alors,
petit
Mathieu
monde.
Alors Mathieu rassemble tout ce petit monde parce que Mathieu est tombé complètement amoureux de l'œuvre de Vols. Et Mathieu...
Et on le comprend.
Bien
que ce soit complètement opposé presque.
Oui, mais c'est pas... On voit cette fascination, on voit bien les causes de cette fascination. Mais Mathieu lui a un peu d'argent. C'est le seul. Et il n'en a pas beaucoup, mais il en a un tout petit peu. Alors ça lui permet d'avoir un peu d'entre-gens, de pouvoir faire rencontrer les gens, de payer un verre ici ou là pour réunir les gens. Et il conçoit 2 expositions qui sont tout à fait, qui sont des fours noirs au niveau du grand public, mais qui sont des réussites totales au niveau de la jeune presse et du milieu artistique. Parce que là, on découvre qu'il y a des artistes. Alors, il y a Brienne, Camille Brienne, qui était un poète et photographe surréaliste, qui est devenu peintre dans les années 47, etc. Il y a plein de gens qui sont là. Il y a Vols, bien sûr. Et Mathieu réunit un certain nombre de gens. Et c'est un peu le début, finalement. Et c'est à propos
en quelle année,
d'une de ces expositions, 47. Et c'est 47 et 48. Il y a eu 2 expositions. Et c'est à propos d'une de ces expositions que le critique, le jeune critique Jean-José Marchand, parle d'abstraction lyrique. C'est comme ça que le nom est venu. Oui. Mais ce n'est en aucune façon une école, ça j'insiste beaucoup. Ce n'est même à peine un mouvement, c'est un élan finalement. Un élan commun d'un certain nombre d'artistes qui se sont réunis dans le même sens, qui marchaient dans le même sens, mais les uns à côté des autres. Sachant très bien ce que faisait le voisin, et en parlant, mais sans aucune interférence entre les œuvres. C'est-à-dire qu'ils sont restés très indépendants les uns des autres. Et ça c'est fondamental, parce que c'est l'opposé de l'abstraction géométrique, où il y avait tout de suite, dès les années 30-35, des grands théoriciens, des gens comme Herbin qui ont imposé, qui ont mis tout sur des rails, qui ont tout réglé, tout organisé. Et ça, je pense que dans la création artistique, c'est pas toujours très positif. Même si l'abstraction géométrique est une immense chose, hein,
oui,
c'est indéniable.
C'est
indéniable.
Oui.
Mais il y avait, c'était
Mondrian,
un peu, bien sûr.
Par exemple.
Mais Mondrian, c'est un peu autre chose. Mais pour l'abstraction géométrique dans l'école de Paris, de l'avant-guerre, ils étaient vraiment sur des rails. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à en sortir. Alors que l'abstraction lyrique, au contraire, ils ont rejeté tout ça. Ils ne voulaient
très libre.
Aucune, ils voulaient être libres, ils oui. voulaient être indépendants. Chacun pour soi, tout en étant ensemble.
Et pourtant, l'esprit
bien.
Était très, très commun, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Ils avancent ensemble, ils avancent main dans la main.
Dans votre accrochage.
Ils peignent ce qu'ils ont envie de peindre. Alors, dans l'accrochage chronologique que j'évoquais tout à l'heure, on voit qu'au début, les tableaux sont assez sombres. Quelques-uns peuvent faire des tableaux plus clairs et surtout avec des couleurs. Mais on sent cette volonté de faire chanter les tableaux, même ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des pigments de couleur. Parce que la couleur coûtait cher.
Oui.
Ils ne pouvaient pas l'acheter. Donc, ils se débrouillaient avec des choses, peut-être pas des couleurs très retentissantes, très glorieuses, très joyeuses. Après, on le sent, dès 47, 48, ça y est, les couleurs commencent à apparaître et après, c'est
Estève,
une fête totale.
C'est
oui,
une luminosité
Estève,
extraordinaire.
Oui, mais Estève, c'est plus tard.
Oui,
mais
oui.
certains pouvaient acheter un peu les peintures, les pigments de couleurs qui pour égayer leur tableau. Mais autrement, c'est, au début, il faut reconnaître que c'est un petit peu en réserve, un petit peu en retrait. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens pratiques de faire éclater leur tableau. Alors, ils font chanter les couleurs autrement. Ils font chanter le noir, ils font chanter le blanc, le gris, les ocres et les terres. Parce que ça, ce sont des pigments qui coûtent moins cher et qu'ils peuvent acheter.
Mmh.
Il faut tenir compte de ça. Et puis alors après, bon, bah, c'est l'éclatement total.
Ici, permettez-moi, Patrick Gilles Persin, je vous propose un éclatement musical. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Gilles Persin, commissaire de l'exposition L'envolée lyrique Paris 1945-1956, une exposition présentée par le Sénat de la République française au Musée du Luxembourg à Paris. Tiens, nous avons parlé tout à l'heure de Michaud.
Oui.
Et ce qui m'amène directement à Dzaouvouki, que vous avez évoqué d'ailleurs également. Dzaouvouki, qui figure parmi les artistes exposés, et ce peintre français d'origine chinoise et membre de l'Institut de l'Académie des Beaux-Arts. D'ailleurs, Canal Académie lui a consacré une émission entière. Au même titre que Chou Tetchoun,
oui, alors,
qui ne figure pas parmi votre choix. Alors, est-ce qu'il ne figure pas
non,
parmi les...
Non, je vous explique tout de suite pourquoi. Chou Tetchoun est un ami de 35 ans. Wookie aussi, d'ailleurs. Wookie et François sont des amis. Et Tetchoun et Thérèse aussi, je les connais tous depuis 35 ans, minimum. Et j'ai téléphoné tout de suite quand j'ai commencé à monter cette exposition. J'ai appelé Chou Tetchoun. Et je lui ai dit, écoute, voilà, j'arrête en 56. Ah, il me dit, ça tombe juste pile, parce que j'ai commencé à être abstrait au milieu de 56. Ben, je dis très bien, trouve-moi un tableau, je le prends, et puis on en parle, et c'est entendu, tu es dans l'exposition. 3 semaines après, il me rappelle en me disant, même en Chine, j'ai pas pu en trouver. Je pensais en avoir, j'en ai pas. Aucun des tableaux de cette époque-là, je ne sais pas où ils sont. J'ai les photos, mais j'ai pas les tableaux. Mmh. Je dis, mais moi, je veux bien mettre une photo dans le catalogue, mais s'il y a un catalogue avec une photo, il faut que j'ai le tableau dans l'exposition.
Vous voyez
et
comme...
voilà pourquoi Chou Tetchoun n'est pas dans l'exposition.
Vous voyez comme les choses sont bien faites. Grâce à votre venue à Canal Academy, nous avons quand même pu rendre hommage à
Chou Tetchoun. J'adore sa peinture.
Je lui organise
une grande exposition le 15 mars prochain à Luxembourg. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne sais même pas encore. Je n'ai pas encore eu le temps de lui dire. Non, mais pour Chou Tetchoun, c'est ça. Alors que Zhao Wuqi, lui, a été abstrait dès la fin 1954. Pour Chou Tetchoun, c'était introuvable. Mmh. Il m'a trouvé les tableaux de janvier 57, mais évidemment, je n'en ai pas voulu, puisque mon exposition s'arrête fin 57.
Bien sûr. Mais de Zhao Wuqi, il y a cette merveilleuse toile qui s'appelle Vent.
Vent, oui, qui a été prêtée par le Centre Pompidou, qui est son premier tableau abstrait.
Voilà.
Mmh. Voilà.
Et puis, il y a des merveilles, des Polyakov. Et c'est vraiment une exposition absolument somptueuse. Maintenant que nous avons fait un peu connaissance avec ce mouvement, pourriez-vous peut-être nous donner une sorte de définition de ce mouvement de l'abstraction lyrique et un coup de cœur?
Un coup de cœur, écoutez, j'ai un coup de cœur pour 59 artistes, puisqu'il y a 59 artistes dans l'exposition. Mon coup de cœur, non, parce que j'adore Guittet, qu'on connaît pas assez, hélas. J'aime énormément le tableau que j'ai choisi. Alors évidemment, c'est facile de dire, c'est le tableau qu'il a choisi, donc il l'aime, oui d'accord. Mais enfin, j'ai choisi ce tableau, je l'aime énormément, le tableau de Pierre Fichet. Je vais pas parler des grands, parce que les grands, bon bah c'est évident. Mais mon coup de cœur réel, puisque vous voulez, ça, j'aime pas beaucoup dire ça, mais il faut le dire, c'est Schneider. C'est un immense peintre.
Ben c'est lui qui figure sur le catalogue.
Bien sûr. Et puis en plus, l'intérêt de ce tableau, c'est que, non seulement parce que c'est Schneider, mais ce n'est pas uniquement pour ça, c'est qu'il est un peu la synthèse de ce qu'était, ce qu'était l'abstraction lyrique, c'est-à-dire le montage du tableau à l'envers, à savoir la lumière au fond, et on remonte le tableau par plan jusqu'au noir, le geste, et puis la couleur. Et dans ce tableau, vous avez tout.
Oui,
le noir
absolument.
Est devant, la lumière est derrière, et tous les tableaux d'exposition sont comme ça. Mmh. Sauf les deux Américains. Parce qu'ils ont reçu une éducation...
Sam Francis et...
Non, Sam Francis aussi, les trois. Alors donc, on peut dire le Sam Francis aussi, celui qui est exposé là, est dans le même cas. Après, Sam Francis s'est intégré à ce montage, si j'ose dire, de la couleur vers du clair vers le foncé.
Oui.
C'est-à-dire que l'abstraction lyrique... Vous n'entrez pas dans le tableau, c'est le tableau qui vient vers vous. Alors que dans la peinture classique, vous entrez un tableau de, je sais pas, un paysage du Lorrain ou de n'importe quel peintre français ou étranger. Au fil du temps, vous entrez dans le tableau avec la ligne de fuite, avec la ligne d'horizon, le soleil au fond, etc. Enfin, c'est vous qui entrez dans le récit du peintre. Or là, c'est le contraire, c'est le tableau qui vient vers vous. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Alors donc, les trois Américains, il y a John Franklin Koenig de Seattle, il y a Paul Jenkins et il y a Sam Francis. Et tous les trois, dans les trois tableaux que je montre d'eux, sont des tableaux qui sont des tableaux montés à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on part du foncé et on remonte vers le clair.
Oui.
Ce sont les trois seuls tableaux de l'exposition qui sont dans ce cas-là.
Oui. Et donc, un coup de cœur, ce sont tous les tableaux, ou Schneider en particulier.
J'adore Schneider, mais j'aime tous les tableaux.
Oui.
Il n'y a pas un seul tableau. Si on m'attaque sur tel ou tel choix, je saurais me défendre.
Oui. Et sur le plan de l'organisation même de l'exposition, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées, par exemple, au sujet de rassemblement de
ces œuvres il a fallu d'abord établir une liste. Alors, il y avait 120 noms. Il n'y en a plus que 59. c'est 59. Alors, qui va avoir un tableau? Qui va en avoir trois? Qui va en avoir deux? Etc. Alors, c'est tombé de soi-même. L'histoire a parlé pour moi et j'ai suivi des artistes qui avaient beaucoup d'importance à l'époque, ont plus de tableaux. Ceux qui étaient moins connus à l'époque, mais très présents, n'ont qu'un tableau, mais sont présents. Et d'autres qui n'étaient pas à Paris ou qui sont arrivés tardivement ne sont pas dans l'exposition. Point. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, ensuite, il a fallu monter l'affaire. Alors, monter l'affaire, ça a été très amusant parce qu'il a fallu décider les prêteurs, évidemment, les collectionneurs à prêter. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'y suis arrivé, j'ai eu ce que je voulais. Et les musées, alors là, c'était très drôle parce que surtout les musées français qui ont prêté, très gentiment, hein, le Centre Pompidou nous a prêté beaucoup de tableaux et les musées de province aussi, je suis ravi. Mais on avait l'impression, quand je les appelais, j'avais l'impression qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient ces tableaux-là. Parce que les années 50, l'abstraction lyrique, ça ne les intéresse plus
du tout.
Mais on n'est
jamais prophète dans son pays.
Voilà, exactement. Ce sont maintenant les installations, les machins, les artistes du ministère, de l'institution. Et ça marche très bien. Tout va très bien. Mais quand il s'agit des peintres des années 50, alors là, c'est beaucoup plus compliqué.
Donc finalement, les collections particulières ou les musées
voilà,
à l'étranger...
Voilà, de toute l'Europe. Hein. Nous étions convenus avec l'administrateur du musée, nous étions convenus que je ne sortirais pas, sauf nécessité impérieuse, que je ne sortirais pas dans mes prêts de l'Europe. Alors j'ai des musées italiens, j'ai un collectionneur de Portugal, d'autres de Suisse, d'Allemagne, les musées allemands, Oslo, enfin tout la Norvège, donc je viens de le dire. Tous les pays que j'ai sollicités, tous les musées sollicités ont prêté.
Est-ce qu'il y a des manques importants ?
Il y a toujours des manques. Il y a toujours des manques, mais j'ai fait les choix. Et ça, c'est la responsabilité
mais
du commissaire.
Mais des tableaux qui seraient éventuellement emblématiques.
Oui, vraiment. Je voulais deux tableaux que je n'ai pas, mais que j'ai pu remplacer par des tableaux d'égale qualité, d'égal intérêt. Peu importe, mais.
D'accord.
Parce que je suis obligé d'impliquer les conservateurs de musée, je ne vais pas le faire.
D'accord. Très bien. Une dernière question à propos du lieu de l'exposition. Le musée du Luxembourg est situé au Palais du Luxembourg.
Tout à fait.
Que l'on doit d'ailleurs à Marie de Médicis.
Exactement.
Qui fait le lien entre le Sénat ou la Haute Assemblée et les salles d'exposition. Et nous avons déjà évoqué au début que son président, M. Christian Poncelet, voulait rendre hommage à ces prestigieux peintres de la Seconde École de Paris. Mais pour vous personnellement, y aurait-il un lien éventuellement qu'on peut établir entre ces artistes et le musée du Luxembourg ?
Bien sûr. On a trop tendance à oublier aujourd'hui que le musée du Luxembourg a été le premier musée d'art moderne et contemporain de France. À la fin du 19e siècle, on a confié à Léonce Bénédite le montage et l'ouverture de ce musée d'art contemporain, où on montrait les pompiers, les académiques, ce que nous trouvons aujourd'hui, les pompiers, les académiques, et puis quelques artistes dits modernes, dont Rodin, par exemple, et quelques autres. Et puis, Léonce Bénédite a été élu dans cette noble maison comme
à l'Académie des Beaux-Arts,
officier de la Légion d'honneur, etc. Caillebotte lègue au musée, donc sous la houlette de Léonce Bénédite, sa collection et une partie de ses tableaux. Mais les amis du peintre Caillebotte, qu'aujourd'hui tout le monde connaît, les raboteurs de parquet, etc., tout le monde connaît ça, ce sont les classiques. Ben, c'était Monet, Manet, Renoir, Sisley, etc. Qui faisait partie de la collection, c'était les copains de Caillebotte, avec lesquels il avait travaillé, exposé, etc. Et comme il avait un peu d'argent, il leur achetait les tableaux. Alors, le lait est accepté, et il expose, Bénédite expose sur les Simèzes, il construit une salle Caillebotte, et il met dedans la collection Caillebotte. Il y a eu une tentative de loi, de décret, je ne sais pas quoi, à la Chambre des députés pour lui retirer sa Légion d'honneur, et l'Institut a envisagé de le virer de l'Académie des Beaux-Arts.
Mais
heureusement, le bon sens l'a emporté, et il est mort, toujours membre de l'Académie des Beaux-Arts, toujours officier de la Légion d'honneur, peut-être même devenu commandeur, j'en sais rien. Et avant de mourir, il a été l'exécuteur testamentaire de Rodin. C'est vous dire que c'était pas n'importe qui, ce brave Léonce Bénédite. Personne ne lui a jamais rendu hommage, personne. Je trouve que ce serait un peu nécessaire. L'institution devrait un jour se réveiller là-dessus, ce serait intéressant.
Vous étiez là pour le faire, mais on pourra peut-être faire une émission spéciale.
Ah oui,
spéciale.
Mais quand je dis un hommage, je veux dire une grande exposition où on montre, parce qu'en plus, il a écrit énormément.
Officiel.
Il a fait le premier livre sur Boudin, le premier livre sur Amangean, le premier livre sur Sisley, etc. C'était un grand bonhomme, et aujourd'hui complètement oublié.
Et donc, quelque part ainsi, de cette manière, mmh. le musée du Luxembourg est devenu, pour un temps au moins, le premier musée d'art moderne.
C'est ça, parce que le musée national d'art moderne n'a vraiment ouvert qu'en 1948, grâce à Cassou, Dorival et quelques autres conservateurs.
Donc, bien après,
oui. En 48. Mmh. Parce qu'il faut savoir qu'en 45, quand nos peintres commencent à essayer d'être lyriques, sans le savoir, si j'ose m'exprimer ainsi, il y avait, le musée du Louvre n'a rouvert qu'en 47, donc il n'y avait aucun musée, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de galerie, il n'y avait rien. Il y avait deux, trois galeries qui étaient entrebâillées. C'est tout. Non, c'était l'indigence. Bon, enfin, voilà. Donc, le pont, vous vouliez un pont entre le... Voilà, vous
entre
l'avez.
Entre votre exposition et le musée voilà. du Luxembourg. Et voilà qu'il est établi, ce pont. Écoutez, Patrick Gilles-Persin, merci infiniment de nous avoir amené au cœur d'un des vraiment grands mouvements de la peinture du XXe siècle, au cœur de cette peinture que vous appelez aussi festive, spontanée.
Oui, tout à fait.
Et cette peinture de la liberté et de l'indépendance du Paris entre 1945 et 1956. Et je rappelle à nos auditeurs donc l'exposition dont Patrick Gilles-Persin est commissaire, L'envolée lyrique, présentée par le Sénat de la République française au Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard, 75 006 Paris. Et c'est jusqu'au 6 août 2006. N'oublions pas de signaler la parution d'un imposant catalogue intitulé « L'envolée lyrique, Paris 1945-1956 », édité par Skira. 250 pages où chaque œuvre de l'exposition est reproduite pleine page, accompagnée d'un élément textuel, des pensées ou aphorismes, des artistes eux-mêmes ou de leurs amis. Et à la fin, vous trouverez une importante bibliographie sélective sur l'abstraction lyrique, ainsi qu'une brève biographie de tous les artistes présentés. C'est un ouvrage vraiment précieux à recommander à tous les amateurs de l'art moderne. Merci Patrick Gilles-Persin.
Merci à vous.
Et à bientôt au Carrefour des Arts sur Canal Académie.